Bonsoir, vous le savez, depuis le début de la journée, nous rendons hommage aux livres sur France Culture. Alors entrons ensemble dans le temps du débat, une émission qui ne serait pas la même sans tous les livres qui nous permettent de la penser et de la faire depuis plus d'un an maintenant. À l'ordre du jour ce soir, loi sur la sécurité globale, assistons-nous à la bataille des images. Au départ, une proposition de loi qui cherchait à mieux coordonner forces de police et de gendarmerie nationale, police municipale et groupes de sécurité privée. Mais à l'arrivée, une proposition de loi qui fait parler d'elle, non pas pour les nouvelles prérogatives données à des sociétés privées ou encore pour l'extension de pouvoirs de policiers municipaux, mais pour un chapitre ajouté à cette loi et consacré à la possibilité pour les policiers de filmer par caméra piéton et par drone, mais aussi à l'interdiction de l'usage malveillant du filmage de policiers et de gendarmes en intervention. Y aurait-il donc une guerre des images autour de ce texte? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Cécile Coudriou, bonsoir. Vous êtes présidente d'Amnesty International France, avec Thomas Rudigoz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche du Rhône, membre de la commission des lois et un des responsables de ce texte. Et avec Alicia Mazouz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en droit privé à l'Université catholique de Lille, chercheuse associée au C3ARD et à l'IRJS à l'Université de Paris 1. Et vos travaux portent sur la personne et son image et sur la confrontation entre droit et nouvelles technologies.
J'aurai l'occasion de revenir vers vous pour évoquer les pistes pour renforcer encore les moyens des forces de l'ordre dans leur action juridique. C'est notamment le cas d'équiper la préfecture de police de Paris de drones qui nous permettent de faire des identifications pour ces personnes qui reviennent à toute forme de manifestation pour saccager.
Je proposerai au Parlement qu'on puisse obliger non seulement les télévisions mais les réseaux sociaux, que nous puissions dire qu'effectivement les policiers de la République ne doivent pas avoir leur visage découvert et diffusé lorsqu'ils font des interventions de police.
Il n'est pas du tout interdit, dans l'article 24, de filmer les forces de sécurité intérieure en train d'intervenir. Ce qui est interdit et qui fera l'objet d'un délit, et qui du coup devrait être apprécié par un juge, c'est la volonté de filmer afin de nuire à l'intégrité physique ou psychique des forces de sécurité intérieure. Si par exemple vous mettez les images d'un policier qui est reconnaissable et que vous le menacez de mort, à ce moment-là, ça pourra faire l'objet d'un délit et ce sera apprécié par un juge.
Vous les avez reconnus, il s'agissait du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Thomas Rudigoz, ce texte-là, c'est une longue gestation, pourrait-on dire. On s'étonne souvent du temps de gestation des lois lorsqu'elles existaient sous la Troisième République. On mettait parfois 10 voire 20 ans pour faire des lois. Mais c'est vrai que on s'est habitué à des lois qui se mettaient en place sur des durées plus courtes. Et celle-ci, elle remonte à septembre 2018, à un rapport de mission parlementaire qui avait été commandé par agent Michel Fauvergue et à Alice Toureau, qui sont les rapporteurs de ce projet de loi qui va donc être présenté dès demain à l'Assemblée nationale.
Effectivement, en 2018, le Premier ministre avait confié une mission à ses deux parlementaires, mes deux collègues parlementaires, Alice Toureau, députée de la Drôme, et Jean-Michel Fauvergue, député de la région parisienne, connu aussi pour son passé de policier, puisqu'il a été le patron du RAID. Et cette mission consistait à mieux faire fonctionner la chaîne de sécurité entre les différents corps de métier qui interviennent sur la sécurité, que ce soit bien évidemment police nationale et gendarmerie nationale, mais aussi les polices municipales, mais aussi les sociétés de sécurité. Et l'aboutissement de cette mission est cette proposition de loi. Je précise bien au niveau sémantique, la différence entre une proposition de loi et un projet de loi, puisque là c'est une proposition de loi, cela vient des parlementaires pour donc un débat cette semaine dans l'hémicycle.
Oui, donc une proposition de loi, mais la différence par rapport à ce rapport parlementaire, de cette mission parlementaire confiée donc en septembre 2018 à Alice Toureau et à Jean-Michel Fauvergue, c'est qu'il y a des chapitres supplémentaires et qui sont ceux qui font débat, pourrait-on dire aujourd'hui, et ces chapitres n'étaient pas prévus au départ. Cela veut dire qu'une proposition de loi peut s'enrichir au fur et à mesure qu'elle avance dans le processus législatif. C'est bien cela, Thomas Rudigoz ?
Oui, c'est exactement cela. Elle va continuer à s'enrichir. D'ailleurs, j'en suis persuadé, pendant le débat que nous aurons dans l'hémicycle dans les prochains jours, de mardi à vendredi. Il faut savoir qu'il y a 1300 amendements qui ont été déposés, donc c'est lourd. Ça montre l'intérêt que porte l'ensemble des groupes parlementaires sur ces questions, et ça va faire l'objet de nombreux débats, jusque tard, je pense, des fois dans la nuit, et qui, certains amendements, continueront à faire évoluer. Mais c'est vrai que vous avez raison. Au départ, il y a une proposition de loi qui est vraiment l'émanation de cette mission parlementaire, encore une fois, de mes collègues Toureau et Fauvergue, et qui après, dans une discussion qu'ils ont eue avec le gouvernement, mais ils seraient mieux à même que moi d'en parler, les choses ont évolué avec certains articles qui ont été ajoutés, dont ceux que vous venez de mentionner entre autres, même si il y avait déjà dans la volonté de Jean-Michel Fauvergue et d'Alice Toureau de faire aller plus loin que leur premier rapport de mission.
Oui, Cécile Coudriou, vous avez été surprise en tant que présidente d'Amnesty International France de la tournure qu'avait pris cette proposition de loi.
Tout à fait. Il y a eu une forme d'accélération que nous trouvons incompréhensible, c'est-à-dire le fait de demander une procédure accélérée, alors que
rien ne justifie. Qu'est-ce qu'une procédure accélérée ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat, alors que le nombre d'amendements que monsieur vient de souligner montre à quel point elle est plus que problématique. Et nous, ce que nous espérons, c'est pas seulement qu'elle sera enrichie, c'est surtout qu'elle sera en conformité avec le droit international, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, malgré les engagements internationaux de la France. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui même, des experts de l'ONU viennent justement de mettre en garde la France par rapport à cette proposition de loi, car elle poserait de nombreux problèmes, notamment autour de la liberté d'expression, mais d'une façon assez large, car c'est aussi la liberté d'informer dont nous parlons, bien évidemment. C'est également le droit à la vie privée, mais aussi le droit de manifester, car lorsque l'on se sait surveillé, et que ce n'est pas forcément parce que l'on a quelque chose à se reprocher qu'on ne veut pas être filmé, ça pose aussi un problème. Donc il y a de nombreuses interrogations et inquiétudes au sujet de cette loi. Je suis ravie de pouvoir en débattre ce soir.
Alors justement, on va entrer tranquillement dans ce corps de discussion, pourrait-on dire, mais je voudrais donner la parole à la troisième invitée de cette discussion, Alicia Mazouz. Vous êtes donc maîtresse de conférences en droit privé, mais spécialiste dans vos travaux de la question de la personne et de son image et de la confrontation entre le droit et les nouvelles technologies. C'est pour cela que nous vous avons invité, parce que on est au cœur de vos propres travaux quand on évoque cette proposition de loi, parce que je ne l'ai pas encore dit, effectivement, le titre 3 et le titre 4 de cette proposition de loi concernent en particulier le filmage par drone, concernent également la question des caméras piétons, concernent tout ce qui tourne autour de la possibilité ou non de filmer ou d'être filmé pour les policiers. Et ça, c'est une question importante. Or, en tant que juriste, vous savez qu'il y a déjà beaucoup de choses dans les lois qui existent déjà sur ce point, Alicia Mazouz.
Alors oui, effectivement, ce soir, on va être confronté à ce que je qualifie de choc des titans. On a
carrément.
D'un côté... Oui, c'est le choc des titans, c'est le choc entre la liberté d'information et d'expression, d'un côté, qui est protégée, comme vient de la rappeler Madame Coudriou, elle est protégée par l'article 10 de la Déclaration européenne des droits de l'homme, donc c'est un droit essentiel. Et puis de l'autre côté, on a quand même aussi cette question de la protection de la vie privée, et dans la vie privée, la protection particulière de l'image. Donc il faut, sans rentrer dans les détails juridiques, rappeler qu'aujourd'hui en France, l'image bénéficie d'une protection spécifique, renforcée, et que vous ne renoncez pas à la protection et à la diffusion de votre image parce que vous participez à un événement sur la voie publique, vous conservez un pouvoir sur cette image qui est diffusée. Donc là, je crois qu'effectivement, le débat va forcément être intéressant, et il appelle un regard, et je serais ravie d'entendre monsieur le député sur cette question, un regard important sur l'utilisation effectivement des nouvelles technologies, en particulier des drones, qui a une place sensible dans le texte tel qu'il est aujourd'hui proposé.
Oui, on appelle ça captation d'images par moyen aéroporté dans l'article 22 de cette proposition de loi. Thomas Rudigoz.
Oui, écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les deux intervenants précédents. Moi, je tiens aussi à rappeler, on parle effectivement de droit de la personne, de liberté individuelle, mais je tiens aussi à souligner la situation de nos forces de l'ordre actuellement. Je crois que nos concitoyens, d'ailleurs, sont très sensibles à cela. Les forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie nationale, police municipale n'ont jamais été aussi exposées à des risques extrêmement élevés. Il y a toutes les semaines des faits divers, voire des incidents, voire des délits, ça peut aller jusqu'au crime, contre des policiers, contre des gendarmes. On ne peut pas tolérer cette situation. Ils sont confrontés soit à la lutte contre le terrorisme, ils sont confrontés soit sur la lutte contre le grand banditisme, contre la lutte contre la petite délinquance dans les quartiers avec les questions de stupéfiants. Regardez maintenant ce qu'il se passe, et d'ailleurs un autre article de la proposition de loi dont on n'a pas parlé, c'est la délictualisation en matière d'utilisation, d'achat et de vente de mortiers. Pour les tirs de mortier, tout le monde a vu les images. Voilà, c'est un des derniers articles. Les images du commissariat de Champigny-sur-Marne, c'était une vraie guérilla urbaine. Donc, il nous faut aussi, c'est un peu une expression qui a été reprise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, protéger ceux qui nous protègent. Encore une fois, moi, je m'inscris vraiment en faux par rapport à la polémique qui existe sur l'article 24. L'article 24
qui prohibe
est très bien
l'usage
écrit.
Malveillant de l'image de policiers et de gendarmes en intervention. C'est bien ça.
Vous avez tout dit. C'est bien l'usage malveillant. On n'empêchera pas les médias, les chaînes de télévision, des chaînes du web, et on n'empêchera pas même des simples citoyens qui prendront des images pour les réseaux sociaux, pour témoigner de leur engagement sur une manifestation.
En revanche, on vous empêche de parler. En tout cas, c'est le réseau qui vous empêche. Oui, on vous entend à nouveau, Thomas Rudigo.
La vraie différence.
Vous avez été coupé. On n'empêchera pas, disiez-vous. Vous pouvez continuer.
Oui, excusez-moi.
C'est le réseau.
C'est le problème des smartphones quand on a un double appel. Excusez-moi. Donc, je disais que ce qui est vraiment ce qu'on veut faire avec cette loi, c'est évidemment l'usage avec un but malveillant contre les forces de l'ordre. Et ça s'est déjà produit. Je prends l'exemple d'une jeune CRS qui était sur des manifestations gilets jaunes il y a quelque temps de cela. Son image a été utilisée et sur les réseaux sociaux, on a appelé à nuire à cette personne, à attenter à son intégrité physique, elle a même dû déménager. C'est bien ce type d'image et ce type d'utilisation de l'image qui pourra faire l'objet de poursuites. Mais absolument pas le travail de journalistes qui pourront même montrer des interventions peut-être musclées de forces de l'ordre. Ils seront dans leur droit le plus entier et il n'y aura donc aucun risque
Vous voulez dire que toutes les sociétés de journalistes qui se sont élevées justement contre ce texte, qui sont assez nombreuses, se trompent lorsqu'ils le font. Quand l'éditorial du Monde dit « filmer les policiers, c'est un droit démocratique », par exemple, eh bien c'est une erreur.
Non, c'est un droit démocratique, le Monde a raison de le dire, mais dans le texte tel qu'il a été écrit, il n'y a pas de remise en cause de ce droit démocratique fondamental. Et je pense d'ailleurs que si c'était le cas, je pense que d'ailleurs il y aura évidemment une saisine du Conseil constitutionnel. Je pense que le Conseil constitutionnel, à mon avis, dans ce cas-là, cela était le cas, effectivement, censurerait cet alinéa. Mais je ne pense pas parce que...
Je redonne la parole à Cécile Coudriou, puis à Alicia Mazouz, et vous reviendrez ensuite, Thomas Rudigo. Cécile Coudriou.
Oui, je tiens à revenir sur cet article 24 et la façon dont il est formulé, ou plus exactement, très mal formulé. On parle, là vous disiez à l'instant, intention malveillante, mais plus précisément, on parle de porter atteinte, délibérément, à l'intégrité physique ou psychique de toute personne, puisque pour l'instant, ce sont gendarmes et policiers, mais dans les amendements, on voit apparaître bien d'autres catégories de personnes, ça devient de plus en plus large. Or, c'est une formulation qui est extrêmement floue, et selon l'expression consacrée, quand il y a un flou, il y a un loup, et surtout, plus sérieusement, il y a un risque d'arbitraire dans l'interprétation qui pourrait être très 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 vaste d'une telle formulation. Et tout ceci, il ne faut vraiment pas être naïf, surtout quand c'est aussi le défenseur des droits, quand c'est aussi la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et en plus l'ONU, comme je viens de le dire, qui sont eux aussi aussi inquiets que des journalistes, par exemple. Non, mais plus sérieusement, ce qu'il faut quand même voir aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un climat qui explique cela. Il y a effectivement aujourd'hui, nous n'allons pas le nier, certainement pas à Amnesty International France, une grande dangerosité pour le métier de policier parce qu'il y a une grande défiance, voire parfois une haine d'une partie de la population vis-à-vis de la police, malheureusement. Mais ce que nous pensons, c'est que cette loi, si elle passe en l'état, ne fera qu'accroître ce sentiment qu'il y aurait un déséquilibre et donc une forme d'impunité pour la police qui ne pourrait plus être filmée et surtout ne pourrait plus avoir de preuves matérielles grâce à la diffusion d'éventuels usages illégitimes de la force, alors que dans le même temps, les citoyens, eux, seraient sommés de se laisser filmer à tout instant dans l'espace public. Donc ce déséquilibre est vraiment absolument insupportable et surtout illégal.
Alicia Mazouz.
Alors écoutez, c'est une transition, merci Madame Coudriot, parfaite par rapport à ce que je voulais effectivement répondre également. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la protection de l'image, quand elle est confrontée à la liberté d'information et d'expression, est souvent peu victorieuse dans le combat. Depuis l'affaire Erignac, qui est vraiment un arrêt de principe, une affaire tristement célèbre...
Il faut se souvenir effectivement du préfet Erignac abattu à Ajaccio en pleine rue, et des photos ont circulé, des images ont circulé de son cadavre allongé sur le trottoir.
Voilà, tout à fait. Et donc dans cette affaire, la Cour de cassation avait considéré que on ne pouvait pas faire primer la liberté d'expression car il y avait une atteinte à la dignité. Et c'est donc la dignité qui va venir limiter la diffusion des images, a fortiori quand elles sont captées dans les espaces publics, dans des événements d'actualité qui appellent illustration. Depuis cette affaire-là, on a une autre affaire également tristement célèbre de ce jeune homme juif Ilan Halimi qui avait été kidnappé par le gang des barbares. Et donc dans cette affaire, la Cour de cassation a également reconnu qu'il y avait une atteinte à la dignité en diffusant l'image qui venait illustrer quelques années plus tard le procès du gang des barbares présentant Ilan captif dans un état sordide. Donc aujourd'hui, comme vous le rappelez justement Madame Coudriou, l'ensemble des personnes, toutes les personnes, il n'y a pas de distinction en fait entre les policiers, une personne qui est ici une victime, entre un professeur peut-être, parce que dans le contexte que nous avons connu ces dernières semaines, finalement, par rapport à ce texte, pourquoi les professeurs ne pourraient pas aussi bénéficier d'un texte protégeant leur image ? Mais à ce moment-là, on va commencer à devoir faire une liste de tous les fonctionnaires, déjà dans un premier temps peut-être, qui appellent cette protection.
Et donc c'était les pompiers, par exemple, qui sont régulièrement agressés, par exemple.
Ça a été mentionné par un député.
Et je m'étonne d'ailleurs que les pompiers sont évoqués dans l'article précédent, l'article 23, qui est sur un autre sujet, qui ne concerne pas directement l'image, mais qui ne figure pas dans l'article 24. N'est-ce pas justement là aussi rajouter une forme de méfiance et cibler spécifiquement, après tout peut-être aussi un fonctionnaire du fisc pourrait bénéficier d'une protection particulière pour un huissier de justice. Enfin voilà, il y a plusieurs autres personnes. Et donc comment établir cette liste ou jusqu'où va-t-on en fait à partir de ce texte ?
Thomas,
et puis après, je rends juste la parole car je voulais juste faire une toute petite remarque, s'il vous plaît, sur le but, parce que je rejoins parfaitement Madame Coudriou. Là, on va avoir un vrai problème d'interprétation sur cette notion de but qu'il soit porté. Parce que si c'est simplement diffuser une image, comment vous démontrer que la diffusion seule de cette image, sans texte d'accompagnement, constitue une volonté de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique ?
Oui, Thomas Rudigos, beaucoup de questions pour vous.
Oui, écoutez, je ne pourrais pas répondre à toutes. Néanmoins, sur cette question dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, cela existe déjà dans le code pénal. Il faut pas oublier ensuite que quand des plaintes seront déposées, il y aura le juge, parce que ce n'est pas après la police ou le ministère de l'Intérieur qui va décider de qui est quelle plainte peut être retenue ou non. Cela ira en justice, et c'est bien les juges qui ont l'habitude de ce type de situation et de dossier qui trancheront. Donc je pense que s'il y avait un abus de la part de certains policiers de vouloir surprotéger leur image, je pense qu'ils seront déboutés. Je ne vois pas en quoi cet article empêchera de telles situations.
Non, mais ce qu'on pourrait vous poser comme question, Thomas Rudigos, c'est puisque ce qu'a l'air de dire, moi je ne suis pas spécialiste de droit et je ne suis pas juriste, Alicia Mazouz, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses dans les lois déjà existantes. Pourquoi rajouter un article dans une loi en préparation, une proposition de loi comme celle-ci, juste Thomas Rudigos.
Incitation à la violence, appel à la haine sur les réseaux sociaux, tout cela peut déjà faire l'objet de...
C'est ce que dit Cécile Coudriot. Thomas Rudigos.
De protection de la
police. Justement, on est dans cette volonté par rapport aux attaques absolument, encore une fois, choquantes et de plus en plus nombreuses contre nos forces de l'ordre. Ça devient de pire en pire. Il y a encore eu récemment deux policiers qui en a tiré à bout portant. Il y a eu le cas de cette policière la semaine dernière qui était en train de faire un contrôle qui a été renversé. On le voit dans les certaines
Excusez-moi, monsieur, je crois que vous confondez des situations de violence mais qui ne sont pas en lien avec des vidéos, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donner des exemples qui sont en lien avec des vidéos?
Vous êtes que sur des vidéos de maintien de l'ordre qui existent effectivement. Mais je crois que souvent les vidéos ne se passent pas que dans des manifestations de maintien de l'ordre, même si c'est celles qui ont peut-être le plus frappé les esprits de nos concitoyens. Je tiens aussi à rappeler les vidéos qui se déroulent quand des fois il y a des descentes de police dans certains quartiers et que des délinquants sont à seulement un mètre des forces de police pour les filmer, pour espérer le dérapage. Et ensuite, c'est des fois des policiers qui habitent dans cette ville, dans cette commune, puisque là, on n'est pas dans des interventions de CRS qui, pour des maintiens de l'ordre sur Paris, viennent de toute la France. On est véritablement dans des opérations anti-stup, de rétablissement de l'ordre dans des quartiers, et c'est là où, certaines fois, il y a des vidéos qui identifient des policiers qui n'ont pas le droit de dissimuler leur visage, ce qui est prévu par la loi, et qui, ensuite, ces vidéos ont une viralité absolument incroyable et avec des appels à la haine contre ces policiers.
Nous n'avons pas d'exemple. Moi, j'aimerais qu'on nous donne un exemple concret, qu'on puisse le voir dans la presse, dans les médias, un exemple qui montrerait le lien de causalité entre une vidéo et quelqu'un qui a été assassiné.
Je vous parlais tout à l'heure d'une jeune CRS qui était en intervention il y a un an de cela dans le cadre des manifestations Gilets jaunes. Son visage a été capté. Et après, il y a eu une viralité incroyable sur cette personne. Elle a été obligée, elle l'a dit récemment dans un témoignage, obligée de déménager. Actuellement, il est très difficile de pouvoir poursuivre les auteurs ou les personnes qui diffusent cette vidéo. Et ce qu'on veut aussi, c'est évidemment faire des exemples, parce que, encore une fois, ce n'est pas tolérable. La fonction de policier ou de gendarme ou de CRS est une des fonctions, même si, bien sûr qu'on peut des fois parler que des violences policières qui existent et qu'il faut condamner et que nous condamnons, et qui sont d'ailleurs traités avec aucune permissivité. Par contre, il est incontestable que ce corps de métier est un des métiers le plus en souffrance. Il y a eu l'année dernière, en 2019, 75 suicides dans la police nationale et la gendarmerie.
Nous y reviendrons dans un instant. Vous écoutez Le Temps du débat. Nous sommes en pleine discussion sur la question de la bataille des images autour du projet de proposition de loi sur la sécurité globale avec nos trois invités, Cécile Coudriou, Thomas Rudigoz et Alicia Mazouz.
France Culture, Le Temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et bien entendu, le spectre de 1984 de George Orwell qui a inspiré en 1973 dans Diamond Dogs cette chanson formidable de David Bowie. Ce spectre, effectivement, que l'on ressort à chaque fois qu'il s'agit de surveillance généralisée des populations. Cécile Coudriou, vous vouliez répondre à Thomas Rudigoz et je donnerai ensuite la parole à Alicia Mazouz sur ce qui était avancé, en particulier sur ces questions de proportionnalité, de constitutionnalité, oui, même peut-être du caractère intentionnel, puisqu'il s'agit effectivement de prohiber cet usage malveillant de l'image des policiers.
Notre référence étant le droit international, c'est à celui-ci que je vais me référer pour dire qu'effectivement, le principe même de l'égalité n'est déjà pas respectée lorsqu'une loi est trop peu précise et donc donne interprétation à bien trop risque d'arbitraire. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la proportionnalité. Ici, c'est vraiment une interdiction extrêmement vaste de diffuser dans la mesure où ce qu'on appelle, je le répète, porter atteinte à l'intégrité physique et surtout psychique est particulièrement sujet à interprétation très très vaste. Et enfin, nécessité non plus, puisqu'il y a d'autres lois qui permettent de protéger toute personne qui serait mise en danger à travers les réseaux sociaux notamment. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement inquiétant et je le répète, ça aura un impact extrêmement fort sur la possibilité pour la France de respecter son engagement, de respecter l'article 19 du pacte international sur les droits civils et politiques, c'est-à-dire la liberté d'expression, mais aussi d'informer. Et je sais bien qu'il n'y a pas que les situations de maintien de l'ordre, mais tout de même, nous avons nous-mêmes, Amnesty International, fait de nombreuses recherches. Et c'était grâce à des vidéos que nous avons pu authentifier, que nous avons pu vérifier avec des moyens numériques, que nous avons pu apporter des preuves, qui ont donc après donné lieu à des enquêtes et donc à des résultats. Si aujourd'hui, avec 45 000 euros d'amende, voire un an de prison, des citoyens comme vous et moi, et pas seulement des journalistes d'ailleurs, hésitent, sont intimidés à l'idée de filmer, mais aussi de diffuser ces photos et ces vidéos, nous pensons que c'est réellement un problème de disproportion dans l'attaque contre la liberté. Et de la même façon, la question de la vie privée, je pense qu'on va en reparler, est réellement problématique quand on ne peut pas mettre sur le même plan la vie privée d'un policier dans l'exercice de ses fonctions, une fonction régalienne, de maintien de l'ordre public, et donc sous l'œil du public. En cas d'impunité, ce serait encore plus terrible, il y aura encore plus de défiance vis-à-vis de la police, donc c'est absolument pas cela que l'on veut. Mais ça, on ne peut pas mettre sur le même plan que les citoyens qui, dans l'espace public, au quotidien, ne doivent pas faire l'objet d'une surveillance qui serait indiscriminée.
Alicia Mazouz, et puis ensuite Thomas Rudigoz. Alicia Mazouz.
Alors effectivement, en ce sens, il y a eu d'ailleurs plusieurs décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation qui ont autorisé la publication de l'image d'un policier dans le cadre de son activité professionnelle. L'une d'entre elles, par exemple, dans le cadre de l'évacuation de l'église Saint-Bernard à Paris, dans le cadre d'un braquage. Donc là, c'était un événement d'actualité qui permettait de faire figurer dans l'image d'illustration cette personne. Je voudrais revenir aussi sur la question en fait de l'intérêt même de la loi, même si je rejoins parfaitement Monsieur Rudigoz sur la nécessité de protéger les policiers comme toute autre personne des lynchages qui peuvent être faits sur les réseaux sociaux notamment. On a, et c'est un peu l'ironie du sort, on a déjà un article, l'article 24, on le discute aujourd'hui dans le projet de la proposition de loi de sécurité globale, mais c'est l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et dans cet article, il est déjà prévu une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour les personnes qui inciteraient à une atteinte volontaire à la vie, à l'intégrité, à une agression sexuelle de la personne, y compris dans ce texte-là, quand ce n'a pas été suivi d'effet. Tout à l'heure, quand on demandait la preuve peut-être de l'existence de lien entre l'incitation et le délit ou le crime, vous avez deux textes. Vous en avez un qui punit à titre de complice et l'autre qui punit, y compris quand il n'a pas été suivi d'effet. Donc moi, je me demandais quand même quelle était l'articulation envisagée entre le nouvel article 24 et l'article 24 déjà existant.
Voilà, une question pour vous, Thomas Rudigoz, quand on est, comme vous, député, effectivement, on doit répondre à des juristes qui vous posent des questions extrêmement précises.
Des juristes extrêmement précis, effectivement, et dont je n'ai pas la compétence de madame pour rentrer dans son détail, mais je veux bien creuser cela, mais là, je ne serai pas en capacité de vous répondre sur cet article 24 déjà existant de la loi de 1881, et je le déplore. Néanmoins, je tiens quand même à revenir sur, quand on parle de la défiance vis-à-vis de la police. Moi, j'aimerais bien savoir qui est défiant vis-à-vis de la police. Bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent être défiantes vis-à-vis de la police, mais une grande partie de nos concitoyens croient en leur police républicaine. Et je trouve cela complètement déséquilibré. On parle du déséquilibre du texte par rapport à une surprotection qu'on ferait des policiers. Je trouve absolument déséquilibré actuellement ce qui se passe pour nos représentants des forces de l'ordre dans leur agissement.
Et puis je me permets monsieur le député, de vous donner un extrait de ce que Mediapart a donné aujourd'hui à propos du livre blanc, le fameux livre blanc qu'on attend depuis longtemps sur la sécurité intérieure. Oui. Et dans ce livre blanc, il est dit, il faut faire connaître et valoriser l'action des forces de l'ordre pour ne pas laisser le champ libre aux mises en cause dont elles font de plus en plus systématiquement l'objet, et d'autre part informer la population de manière efficace et réactive en situation de tension d'immigration, opérations de maintien de l'ordre, par exemple. Donc, si d'un côté, dans le livre blanc de la sécurité intérieure, il est mentionné qu'il y a des soucis, justement, vis-à-vis de la manière dont les populations sont informées du maintien de l'ordre, et de l'autre côté, qu'il y a cette proposition de loi, on peut se dire qu'il y a une cohérence, en tous les cas, de vision des deux côtés.
Si je peux me permettre.
Moi, ce que je constate, c'est pour bien connaître notamment la police de Lyon, avec qui je travaille, comme j'étais avant maire d'arrondissement, j'ai beaucoup travaillé avec eux. On a des policiers, puisqu'à Lyon, c'est la police nationale, républicains, qui font leur travail dans le respect des lois. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des fois des policiers qui commettent des bavures, qui commettent des actes délictueux. Et pour cela, il faut être, j'ai envie de dire, intraitable. Et c'est bien très généralement ce qu'il se passe, parce que, et ce qui est normal, les sanctions seront encore plus dures, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Mais je crains parfois, par rapport à une certaine actualité, qu'il y ait des amalgames faits par rapport à la grande majorité de nos forces de l'ordre, et à cause de quelques, j'ai envie de dire, moutons noirs, tout comme en politique, d'ailleurs, on connaît à peu près les mêmes dysfonctionnements, c'est l'ensemble d'une profession qui est touché. Encore une fois, je suis désolé, vous me citez la sécurité intérieure, mais vous qui êtes journaliste, vous pouvez constater par rapport aux faits divers, par rapport aux agressions que subissent les forces de l'ordre depuis très longtemps, et tout particulièrement ça s'est accéléré ces derniers mois, on le voit bien qu'ils sont la cible de multiples agressions. Et ensuite, non seulement ce sont des agressions physiques dans des actions de terrain.
On a d'ailleurs fait des émissions dans le temps du débat sur ce sujet, bien évidemment. Oui, bien évidemment, on l'a
bien
noté.
Mais il y a une prégnance particulière actuellement sur ces violences contre les policiers. Et encore une fois, je ne veux pas opposer violences policières qui existent, c'est un fait, ça existe. Mais les violences contre les policiers sont extrêmement fortes et présentes. Et ce qui se passe de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux, c'est la diffusion d'images malveillantes. Et c'est cela qu'on vise encore une fois. On ne cherche pas à empêcher la liberté de la presse. Vraiment, je le dis avec force parce que ce n'est absolument pas le but de cette loi. Par rapport à l'article, par rapport à la rédaction qui est, selon Madame la Présidente d'Amnesty International France, qui serait sujette à caution et qui pourrait laisser toute liberté à l'interprétation. Cette problématique d'intégrité physique ou psychique est déjà dans le code pénal. C'est écrit tel quel. C'est un chapitre du code pénal. Elles sont très claires. Cela concerne les actes de torture et de barbarie, les actes de violence et les actes de harcèlement moral.
Mais pas par rapport à la diffusion d'une image, enfin... S'il vous plaît, est-ce que je peux...
Mais c'est pas une image juste de la personne qu'on voit physiquement, bien sûr. Si c'était cela, encore une fois, si un policier estimait, parce qu'on le voit dans une action... Vous savez d'ailleurs, juste, excusez-moi, je laisserai la parole, mais pour avoir échangé avec certains policiers espèrent, et même c'est la une grande partie des syndicats, espéraient que nous allions plus loin. Ils ne voulaient pas que dans leurs actions de police, dans leurs activités de policiers sur le terrain... leur image, leur visage soit reconnaissable. Ils voulaient, c'est de là qu'on parle du floutage. Nous avons refusé. Il est absolument inacceptable de pouvoir avoir cela. C'est la police de la République, elle doit agir à visage découvert. Donc nous avons refusé un tel floutage. Par contre, c'est vrai que si les captations vidéo sont après utilisées pour dire « Monsieur un tel » ou « Madame X habite là, dans tel quartier, allez la retrouver, allez lui faire... toutes sortes de turpitudes, attaquer même sa famille, attaquer ses enfants, sa femme ou son mari. C'est cela que nous voulons sanctionner et que nous voulons mettre justement dans
Cécile
la
Coudriou et Alicia Mazou.
Oui, Cécile Coudriou. Ce n'est pas ce que dit la loi en l'état, la proposition de loi, pardon, en l'état, malheureusement. Pour en revenir à ce que j'entendais par défiance, évidemment, ça n'est pas moi, en tant que présidente de l'Amnesty International, qui appelle à la défiance, loin de là. Ce que nous constatons, c'est que les policiers sur le terrain, comme les gendarmes d'ailleurs, sont là pour exécuter, malheureusement, un schéma de maintien de l'ordre qui a été revu, mais absolument pas dans le sens que nous souhaitions. Pourtant, nous avions fait des recommandations. Et force est de constater qu'il y a depuis quelques années une véritable escalade, à la fois dans le suréquipement avec des armes classées armes de guerre, tout de même des policiers, qu'il y a de plus en plus d'abus également dans les procédures judiciaires, que ce soit pour outrage, pour entrave au droit de manifester, etc. Donc ça crée un climat général. Et c'est cela qui, au bout d'un certain temps, finit par créer aussi un sentiment de défiance, alors qu'elle est tellement essentielle dans une société. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que justement, si on faisait une réforme structurelle allant plutôt vers une désescalade, en revenant vers davantage de proximité, davantage de moyens, et qu'on puisse être certain que les policiers puissent toujours accomplir leur mission dans le respect du droit, il y aurait de nouveau un terrain beaucoup plus favorable, il n'y aurait même pas besoin de cette loi du tout, d'ailleurs, et ce serait bénéfique aussi pour la population et également pour la police elle-même. Et d'ailleurs, la CGT Police, par exemple, a elle-même appelé de ses voeux que cet article 24 soit retiré, car pour eux, c'est aussi un très mauvais signe qu'on envoie quand la police a l'air de dire qu'elle va se soustraire au regard de la société. Si, donc tout cela est complètement délétère.
Si on ajoute cette question des drones dont on n'a pas parlé, on n'aura pas le temps de parler de la totalité de cette loi qui est pourtant extrêmement intéressante, de cette proposition de loi extrêmement intéressante dans sa variété sur la sécurité globale. Alicia Mazouz, il y a déjà, elle va peut-être entrer en contradiction avec une ordonnance du 18 mai 2020 du Conseil d'État qui interdit l'usage des drones dans Paris, par exemple, alors que là, cette proposition de loi propose justement l'usage des drones pour filmer par voie aérienne tout en garantissant les libertés publiques.
Alors oui, effectivement, une décision qui a été rendue suite à une décision du préfet de police qui avait prévu la possibilité de capturer des images par drone dans le cadre du confinement. Le Conseil d'État a refusé, saisi qu'il a été par l'association à la quadrature du net, de permettre ce développement parce que justement, il a constaté qu'il y avait une atteinte à la vie privée et qu'il fallait, pour ce type de dispositif, avoir un encadrement réglementaire. Peut-être justement est-ce la réaction ici qui est faite par les députés face à cette demande quelque part du Conseil d'État de ne pas laisser prospérer une technologie sans encadrement, en sachant que je souhaiterais quand même préciser, il y a différents types de drones aujourd'hui en France, mais les drones civils qui évoluent déjà depuis de nombreuses années dans des usages professionnels, on les voit bien sûr hein, dans tout le cinéma, on voit régulièrement des images bien captées sûr. Par drone par exemple. On voit aussi le développement de ces utilisations-là pour tout ce qui est bâtiment, évidemment. C'est très encadré et on ne peut pas aujourd'hui, sauf dérogation et règles très particulières dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, survoler des populations avec des drones civils. Donc le fait de faire entrer dans les espaces urbains des aéronefs comme les drones, même s'ils sont de petits aéronefs, mais ils sont quand même dans cet espace aérien très réglementé et il y a un danger aussi qui viendrait du ciel quelque part à faire circuler. Donc je trouve que sur cet aspect-là, c'est peut-être un peu précipité et que ça mérite vraiment une réflexion globale que cette intégration des drones, cette fois-ci d'État.
La réponse de Thomas Rodigoz, à ce point-là, mais peut-être aussi à ce que vous disiez au tout début, plus de, disiez-vous, 1300 amendements, je crois, à cette proposition de loi, à la possibilité qu'elle soit différente à la sortie de cette procédure accélérée qu'elle ne l'est à l'entrée, c'est-à-dire à partir de demain.
Oui, alors la procédure accélérée, déjà, je tiens aussi à préciser, j'aurais dû le faire dès le départ, elle est très très souvent utilisée pour plein d'autres lois.
Malheureusement.
Donc c'est pas...
Celle-ci a des implications.
Mais d'autres en ont eu déjà. Bon, après, c'est un débat. Mais sur les drones, c'est vrai que Madame la professeure de droit a complètement raison. Le Conseil d'État avait effectivement levé un problème justement du fait qu'il n'y avait aucun encadrement réglementaire pour les aéronefs. Parce qu'il faut bien avoir en tête que on parle beaucoup des drones actuellement, mais même les caméras depuis hélicoptère n'avaient pas d'encadrement législatif. Donc on a choisi de mettre dans cette proposition de loi cet article qui permet d'avoir enfin un cadre légal pour l'utilisation de ces drones, qui sont un outil, mais comme il y a déjà la vidéoprotection, comme il y a les caméras portées par les forces de l'ordre sur eux-mêmes. Alors, bien sûr que les questions de caméras, tout de suite, peuvent faire créer des fantasmes, mais qui peuvent être des fois respectés. Et c'est pour ça qu'il faut encadrer les choses, et c'est bien prévu également dans cet article d'encadrer cette liberté de la vie privée.
Merci beaucoup à vous, Thomas Rodigoz, d'avoir défendu cette proposition de loi qui va donc arriver à partir de demain en discussion à l'Assemblée nationale. Merci à Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, et à Alicia Mazouz, maîtresse de conférence en droit privé à l'Université catholique de Lille et spécialiste des questions de personnes et d'images et de confrontation entre droit et nouvelles technologies. Un sujet tout à fait passionnant qu'on pourra continuer dans le temps du débat pour une autre émission. C'était le temps du débat. débat, Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Bay, Hugo Boursier, Imane Gilles, à la technique avec nous, Laurie Vachon, à la réalisation, Félix Levaché. Dans le temps du débat demain, télétravail, la régulation est-elle impossible? Dans 3 minutes, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour Affaires culturelles avec la comédienne Valérie Dréville.